Et nous revoilà pour un nouvel épisode d'Allo la Bretagne. Nous sommes bien sûr avec André Locussol. Alors, crise sanitaire oblige, il n'est pas avec nous dans le studio, mais qui est quand même avec nous par téléphone. Bonjour André.
Bonjour Gaël.
Alors, dans cette nouvelle émission, ce nouvel épisode d'Allo la Bretagne, nous évoquerons la bio ou le bio, l'agriculture biologique en tout cas. Un sujet que vous connaissez bien, André, pour être fils d'agriculture auvergnat. Voilà, votre père qui a d'ailleurs changé de métier à 28 ans. Petit-fils d'agriculteur, descendant d'agriculteur au pluriel, tous très modestes. Par ailleurs, vous avez aussi organisé, participé à de nombreux débats sur l'agriculture, notamment en tant que candidat aux législatives de 2012 sur Pontivy-Beaux. Et aujourd'hui, nous allons d'ailleurs entendre deux personnalités bretonnes engagées politiquement et qui connaissent bien notre sujet du jour. Alors André, première question, qu'est-ce que c'est que le ou la bio? Qu'est-ce que c'est également ce nouveau label, parfois un petit peu décrié, qu'on appelle la HVE, la haute valeur environnementale?
On parle de plus en plus de bio, parfois à tort à travers, et cela finit par ne plus rien dire. D'où une certaine confusion qui est d'ailleurs entretenue entre agriculteurs conventionnels, raisonnés en conversion sans pesticides et bio. Pourtant, de grosses différences existent entre bio française, bio européenne, et au sein de la bio européenne, hors France, entre un produit bio espagnol, italien, allemand, batave, c'est-à-dire des Pays-Bas, ou bulgare, et même en Afrique, où c'est un moteur de développement pour des pays comme l'Ouganda. On peut partir sur deux définitions, la première officielle et la seconde en reprenant celle de Wikipédia. La première, le mode de production et de transformation biologique fait partie en France des signes officiels d'identification de la qualité de l'origine. Encadré par une réglementation européenne depuis 1991, il a pour objectif le respect de l'environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. Seuls les produits qui en sont issus peuvent porter le logo bio européen et la marque AB. Le bio, d'ailleurs, s'inscrit au cœur du développement durable. Deuxième définition de Wikipédia, beaucoup plus large, on va dire. L'agriculture biologique est une méthode de production agricole qui exclut le recours à la plupart des produits chimiques de synthèse utilisés par l'agriculteur industriel et intensif depuis le début du XXe siècle. Les organismes génétiquement modifiés par transgénèse et la conservation des cultures par irradiation. La fertilisation du sol et la protection des plantes doit donc être assurée par d'autres méthodes.
Donc voilà pour les deux définitions, la première qui est donc la définition officielle en France et la seconde, celle qu'on trouve notamment sur Wikipédia. Après la définition, est-ce qu'on peut donner quelques chiffres, André?
C'est des chiffres qui sont fournis par l'agence bio. En 2019, plus de 9 Français sur 10 déclarent avoir consommé des produits biologiques. Près des 3 quarts consomment bio au moins une fois par mois et 14% consomment même tous les jours. Les filières agricoles bio ne cessent de se développer en France, 70 312 fin 2019. Elles entretiennent et génèrent de l'emploi dans les territoires et permettent de répondre à la demande consommateurs. 2,3 millions d'hectares étaient cultivés en bio, soit 8,5% de la surface agricole utile française. Fin 2019, en Bretagne, ce sont 3 347 exploitations sur 123 168 hectares en bio et en conversion, soit 8% de la surface agricole utile, la Bretagne se situant au 7e rang en France.
Alors justement, André, là, vous venez de citer ces chiffres-là en nous disant qu'ils comprenaient à la fois l'agriculture bio et l'agriculture en conversion. Qu'est-ce que ça veut dire exactement des agricultrices, des agriculteurs qui sont en conversion ?
Pour faire simple, c'est le passage de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio qui peut prendre plusieurs années parce que ça change complètement les méthodes pour cultiver la terre et ça change aussi, bien évidemment, tout ce qui est logistique, approvisionnement, voire même au niveau du matériel. Ces agriculteurs sont nombreux, quel que soit leur âge. On trouve des gens qui ont plus de 50 ans, Et donc, il n'hésite pas à sauter le pas pour une meilleure vie et un travail certainement mieux rémunéré.
Donc ça, c'est du côté des agricultrices et agriculteurs, mais du côté des consommateurs, c'est vrai qu'on a l'impression d'entendre depuis près de 10 ans, voire plus de 10 ans, que c'est un marché qui est en développement. Qu'est-ce qu'il en est exactement du développement du marché du bio ou de la bio ?
Le marché bio français représente 11,9 milliards de chiffre d'affaires en 2019, 13,5% d'augmentation. C'est 6% de la consommation alimentaire des ménages. La Bretagne est loin la région où les habitants consomment le plus de bio. 19% des consommateurs chaque jour. Loin devant les autres régions, y compris la région parisienne, 14%. Parlons aussi de la restauration collective à caractère social qui enregistre une croissance record en 2018 de plus 28% et cela continue. En 2018, le marché bio de l'Union européenne passait 40 milliards d'euros, produit par plus de 325 000 exploitations agricoles sur 14 millions d'hectares, y compris les surfaces en conversion, et ça représentait 7,5% de la surface agricole utile européenne, surface française arrivant à la deuxième place derrière l'Espagne. Dans le monde, c'est respectivement 72 milliards d'hectares pour 2,8 millions d'exploitations.
Alors là, on parle du bio, on a parlé du label bio également. Depuis quelques années, on entend, alors notamment chez les ministres de l'Agriculture, un nouveau terme, un nouveau sigle, ou en tout cas un sigle qu'on entend de plus en plus, la HVE, pour haute valeur environnementale.
Exactement. Le ministre de l'Agriculture annonce d'ailleurs 8218 exploitations françaises qui bénéficient de la mention haute valeur environnementale. D'ailleurs, il vaut mieux parler de mention que de label. Et ça, c'était au 1er juillet 2020, donc c'est tout récent. Cette mention figure également sur des produits issus d'une exploitation haute valeur environnementale. Regardez bien sur les produits et vous le verrez. Un logo garantit que les pratiques agricoles utilisées sur l'ensemble d'une exploitation préservent l'écosystème naturel et réduisent au minimum la pression sur l'environnement.
André Locussol, merci beaucoup et nous allons maintenant entendre René Loy, éleveur, syndicaliste. Il a également été conseiller régional de Bretagne de 2010 à 2015 et il nous en dit plus justement sur cette HVE, haute valeur environnementale.
La haute valeur environnementale qui s'applique à l'agriculture, c'est ça date de 2007. Je crois que c'est important de revenir un petit peu dans l'histoire. 2007, c'est le débat sur le Grenelle de l'environnement. C'est le moment où la société, après une très vaste consultation, a s'est rendu compte de l'importance que l'agriculture pouvait jouer sur la question environnementale, climatique, sur la question de la santé, sur la question de la des pollutions de l'eau, sur la question de la biodiversité, et j'en passe. Au départ, ce label, en quelque sorte, devait être un outil qui devait accompagner la transition de l'agriculture sur une période donnée, pour progressivement avancer vers ce qu'on appelle l'agriculture biologique. Un nombre de moyens, mais des moyens importants, ont été dédiés au niveau de la HVE, et j'allais dire, au début, c'était surtout appliquer la réglementation en vigueur, c'est-à-dire pas uniquement en production animale, mais sur toutes les productions données. Et en particulier aussi, il y avait un début de prise de conscience de la dangerosité des pesticides. Donc c'était à titre volontaire, encouragé par les organisations économiques, il faut le dire. Et à un moment donné, donc, il y a eu une certaine adhésion sur la question de la HVE, avec trois niveaux différents, HVE1 et HVE2, qui est l'application des règles, et HVE3, c'est-à-dire qu'on rentre un peu plus dans l'agronomie. 10 ans après, on fait le point, 2007, 2017, 2018, on s'est rendu compte qu'à cette période, alors que les objectifs, par exemple dans le domaine de la diminution des pesticides qui devaient être de moins 50%, c'est qu'on s'est rendu compte que sur le même laps de temps, l'utilisation des pesticides dans l'agriculture a augmenté de 25%. Derrière la HVE, on n'avait pas pris les moyens contrairement à ce qui était affiché, d'aller vers une politique d'application d'un somme et de graduation de ce qui était prévu. Donc la HVE n'est surtout pas une avancée vers l'agriculture biologique, puisque on voit bien que ça n'a pas changé dans le domaine des pesticides. Dans la même période, on a éliminé le tiers des agriculteurs. Et donc, on a continué l'arasement de talus, on a continué un somme de choses. Donc, la HVE, aujourd'hui, c'est galvaudé par les grandes coopératives, et en particulier en Bretagne, on le voit bien avec Tescalia et d'autres, en disant on met le logo HVE, mais derrière la HVE, c'est tout, sauf un objectif de résultat. Donc c'est un échec sur les 10 premières années. Si on en parle maintenant, c'est que à la fin 2020, il y a eu un débat au niveau parlementaire. Hein. Il était prévu un crédit d'impôt de 76 millions d'euros sur la HVE. Et ce qui était complètement scandaleux, puisque c'est accompagner l'agriculture conventionnelle et on n'avance pas sur la question de la mise en place de la bio. Et je rappelle que l'agriculture bretonne, c'est l'une des agricultures qui participe le plus aux émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture bretonne, c'est 46% de responsabilité contre 23% ou 24% au niveau national. Ce qui veut dire que là, on voit bien que le compte n'y est pas. Heureusement qu'il y a eu un combat au niveau et qu'on a eu des alliés au niveau parlementaire. Mais ce qu'il faut surtout qu'on arrive à gagner, c'est d'expliquer auprès des consommateurs que toutes les marques commerciales, les grandes distributions, les enseignes de distribution utilisent la HVE et sèment la confusion par rapport à la bio.
Et concernant la HVE, René Loye, quand on vous dit que justement la HVE permet plus facilement pour certains agriculteurs, certaines agricultrices de passer une première étape, d'éventuellement se diriger vers la bio, que c'est toujours mieux que rien, qu'est-ce que vous répondez à ces arguments ?
Je dis effectivement que de 2007 à 2021, la première étape doit être franchie. Si elle n'est pas franchie en 10 ans, elle ne sera jamais franchie. Ça veut dire qu'on a mis des moyens pour accompagner le système, mais pas pour la transition. Donc, il faut aller beaucoup plus vite avec un objectif de résultat. Et là, on est passé d'un objectif d'accompagnement à un objectif de soutien sous la pression de la FNSEA et des organisations économiques à un soutien du modèle dominant de l'agriculture. Ce qui n'est pas la même chose. Donc, le bilan qui a été fait en 2017-2018 de la HVE et aujourd'hui nous amène à dire effectivement qu'il y a une dérive complète. Donc il faut totalement revisiter le cadre de la HVE et de dire aujourd'hui, maintenant, les aides dédiées à l'agriculture devront être totalement dédiées à l'agrobiologie. Et ceux qui veulent continuer le choix dans le système conventionnel, ils le font avec leurs moyens, mais pas avec les aides de la collectivité. Ce qui n'est pas la même chose.
C'était René Loye, éleveur des Côtes d'Armor dans le centre-Bretagne, à quelques kilomètres de Mur de Bretagne, également syndicaliste. Il nous en disait plus sur la mention HVE, haute valeur environnementale. Et nous allons maintenant entendre Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan, grand défenseur de l'environnement, de la biodiversité, d'une agriculture sans OGM ni pesticides. On le connaît également comme défenseur des abeilles, victime des néonicotinoïdes. Il nous explique le combat qu'il mène au Sénat pour une agriculture plus saine, plus responsable et préservatrice de l'environnement.
Personnellement, je suis au Sénat depuis 2011 et la première mission d'information à laquelle j'avais participé, c'était sur les pesticides et leur impact sur la santé et sur l'environnement. Donc j'étais déjà convaincu auparavant, mais cette mission d'information m'a convaincu d'une manière déterminée qu'il fallait absolument avancer vers une sortie progressive des pesticides. C'est la raison pour laquelle j'ai fait la proposition de loi interdisant les pesticides dans les espaces publics des communes et dans les jardins domestiques. C'est appliqué maintenant. Volontairement, je n'avais pas touché l'agriculture parce qu'on n'aurait jamais trouvé une majorité. Mais comme ce sont les mêmes molécules, cette loi a permis l'interdiction de leur utilisation pour des raisons de santé et d'environnement. Et pour moi, c'est une petite loi, mais qui est une loi pied dans la porte. Alors ensuite, ce qui s'est passé... Euh, Il y a tout d'abord eu la loi biodiversité où on a réussi à faire interdire les pesticides néonicotinoïdes qui ont refait l'actualité par le biais d'une dérogation pour les betteraviers tout récemment et pour lesquels il y a eu des levées de boucliers, mais malgré tout la dérogation a pu se faire. Donc ça avance doucement, beaucoup trop doucement. Parce qu'en parallèle, ce qui compte, c'est justement accélérer la transition vers les agricultures alternatives n'utilisant pas les pesticides, et notamment l'agriculture bio. Mais les moyens qui sont mis sont très largement insuffisants, tout comme les moyens mis pour les alternatives aux pesticides. Il y a une étude de la Fondation Nicolas Hulot qui est sortie la semaine dernière, et qui dit que très peu de l'argent mis pour les alternatives aux pesticides sont utilisés effectivement et précisément pour cela. Donc il y a un lourd travail à mener. Ce qu'on défend en parallèle pour la promotion du bio, c'est la relocalisation de l'alimentation, notamment via les projets alimentaires territoriaux. Et puis ce qu'on a aussi réussi à faire passer dans la loi, c'est l'obligation dans la restauration collective publique de 20% de produits bio dans tous les menus. L'idée, c'est de par cette loi, eh bien, de pousser à la production parce qu'on crée la demande. Par contre, tout est très long, alors qu'il y a urgence à bouger. Tout est très long, trop long. Mais je crois que l'opinion publique est très sensibilisée maintenant. Et puis, il y a via la relocalisation de l'alimentation, et bien d'autres méthodes, notamment de petite transformation et de commercialisation des produits qui évitent l'industrie agroalimentaire et qui évitent la grande distribution, qui sont les gros rapaces pour ce qui est de la valeur ajoutée et qui, de ce fait, font que les producteurs sont insuffisamment rémunérés. Donc, à mon sens, l'avenir va vers à la fois une transition forte vers l'agriculture biologique et à la fois vers une relocalisation de l'alimentation.
Joël Labbé, vous nous dites que ça prend du temps, que c'est très long, voire trop long, malgré une population a priori plutôt majoritairement favorable à ces changements, à ces évolutions. Alors à quoi c'est dû pour vous? Est-ce que c'est davantage ce qu'on va appeler les lobbies? Est-ce que c'est dû à une défiance de la part d'une partie de la population ou de certains professionnels?
En fait, il y a un système en place en France, mais en Europe aussi d'ailleurs, autour du modèle agricole, qui se veut être un modèle de plus en plus industrialisé. Et évidemment, leurs discours vont dans le sens de meilleures pratiques, mais sans remettre en question le système, jamais. Et dans ce système, il y a évidemment le gros syndicat agricole, il y a l'industrie agroalimentaire, il y a la grande distribution, il y a les firmes qui vendent les produits de traitement, il y a les coopératives agricoles, tout ça fait système. Et il est extrêmement difficile de faire bouger les lignes. Comme la semaine dernière au ministre de l'Agriculture, je demandais à l'appui de l'étude Nicolas Hulot, mais aussi de la Cour des comptes, de donner beaucoup plus de moyens à la transition et au soutien de l'agriculture biologique. Tout de suite, sa réponse a été de me dire qu'il fallait arrêter d'opposer l'agriculture à l'environnement, ce qui n'était pas du tout ma question. Mais c'est toujours dans le même discours, y compris le ministre de l'Agriculture, ce qui veut dire que c'est vraiment, vraiment pas facile de faire bouger. Je crois beaucoup aux citoyens, aux consommateurs, de plus en plus informés, et bien pour lesquels il y a de plus en plus de propositions aussi. Il y a les AMAP qui fonctionnent toujours, mais maintenant il y a les magasins de producteurs et différentes formes de transformation et de vente qui s'accélèrent sur les territoires, parce que la question du bio, de l'agriculture bio française et des productions bio françaises, elles doivent être liées au territoire. Ce n'est pas pour être expédié à de milliers de kilomètres ou bien être reçu de milliers de kilomètres. Lié au sol aussi, tout ce qui est hors sol ne peut pas être reconnu bio. Et puis lié aussi évidemment à la saisonnalité, à savoir tout ce qui est produit hors saison, notamment via les serres chauffées, parce qu'on s'est battu là-dessus. Sur des serres chauffées, certes sans pesticides, ça n'a pas de sens d'être reconnu bio. Donc autant de sujets qui font qu'il y a une forme de lutte complètement inégale entre le lobbying très puissant du modèle unique et des acteurs de terrain qui sont de plus en plus nombreux et qui répondent à la demande croissante des citoyens.
Vous, votre espoir, ce serait donc qu'il y ait davantage de lois, de règles, de normes, notamment autour du bio, de sa commercialisation et de son utilisation ?
Oui, bien sûr. Alors, tout ne passe pas par la loi. Et comme je vous le disais, l'information citoyenne et les habitudes de consommation citoyenne qui évoluent, la loi, évidemment, ça va vers les interdictions des pesticides, les molécules pesticides les unes après les autres. Ça, c'est la loi. Mais aussi, ce qu'il y a dans la loi, c'est nos projets de loi de finances. Comment on cible les financements français et européens. Est-ce qu'on continue de subventionner très largement le modèle dominant ou est-ce que l'on cible une part importante, de plus en plus importante des financements vers les productions que l'on dit vertueuses ? À savoir, il y a notamment un groupement d'ONG avec la CONF qui travaille sur la notion de paiement pour services environnementaux. C'est la reconnaissance des services qui sont rendus par l'agriculture biologique, à savoir sur la qualité de l'eau, du sol, de l'air, la santé humaine. Ce sont des services qui sont rendus à la société, qui n'impactent pas la société, bien au contraire, qui ne lui coûtent pas. Et donc ce qui est demandé, c'est qu'une partie des fonds européens soit fléchée vers cette agriculture-là, non pas pour condamner l'autre, mais pour faire l'autre agriculture, la faire sa mutation.
Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan, qui répondait à nos questions. Nous sommes de retour dans le studio de Radio Brodjuinette, toujours avec André Locussol au bout du fil. Alors André, qu'est-ce qu'il faut retenir plus particulièrement et plus prioritairement peut-être de ces interventions de René Loy et Joël Labbé, deux personnalités bretonnes engagées notamment dans les combats écologiques et environnementaux?
Dans un premier temps, je dirais que il faut retenir que le terme bio n'est garanti de produits sains et non traités partout dans le monde, y compris en France, bien que ce soit un degré moindre. Il nous faut revenir, c'est mon avis personnel, à une législation plus stricte, plus contraignante, avec des labels plus explicites et différenciés. Par exemple, en France, vous savez, c'est le fameux AB, mais les gens ne savent pas souvent ce que c'est exactement. Ou bien il y a le bio européen de l'Union européenne avec la feuille qui ne dit pas automatiquement que c'est l'Union européenne. Et donc il vaudrait mieux avoir des bio bien écrits, ainsi que le bio avec le nom du pays quand ce n'est pas bio France et quand ce n'est pas bio Union européenne. Il faut bannir de toute façon le bio industriel, car par essence bio signifie agriculteur de proximité et artisanale et non industrielle. Ça, c'est le premier point. Pour reprendre un peu ce que disaient Joël Labbé et René Loy, je dirais qu'il faut dénoncer des labels de complaisance comme le HVE. D'autre part, on rappellera que la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit, comme disait Joël Labbé, l'interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes depuis le 1er septembre 2018, avec des dérogations qui iront jusqu'au 1er juillet 2020. Donc en principe, il ne devrait plus y avoir d'utilisation de ces produits, ce qui n'est pas certain. Enfin, pour terminer, on conseillera aux consommateurs de se tourner vers les AMAP. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Vous en avez déjà certainement entendu parler, qui privilégie une agriculture locale de proximité, paysanne et sans pesticides, bio ou en conversion, avec des produits moins chers que dans les magasins spécialisés ou les grandes surfaces, car c'est sans intermédiaire. Il fonctionne sous la forme de paniers remis une fois par semaine et de contrats semestriels. Et comme le dit juste justement la définition des AMAP, c'est pour fournir des éléments sains produits dans le respect de l'homme, de la biodiversité et du rythme de la nature. Les AMAP participent ainsi à la lutte contre les pollutions et les risques de l'agriculture industrielle et favorisent une gestion responsable et partagée des biens communs. Dernier point, il existe à peu près 120 AMAP en Bretagne sur 2000 en France, dont la région parisienne qui en compte près de 500.
André Locussol, merci. Je rappelle que vous êtes économiste morbihanais. Vous êtes également une personnalité engagée qui s'intéresse à ces questions d'écologie et notamment d'agriculture biologique. On se retrouvera dans quelques semaines pour un nouvel épisode de ce concept Allô la Bretagne.
À bientôt, à la prochaine émission. Kenavo.